Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du taureau, des rites de fertilité et bien sûr du travail intérieur en relation à cet archétype, à cette forme primordiale, donc du taureau. Le taureau, le symbole du taureau, bien sûr, c'est un symbole extrêmement ancien, c'est un des plus anciens symboles de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement donc d'un signe astrologique ici, hein, mais vraiment d'une figure finalement, le représentant du sacré, hein, presque. Hein. C'est un symbole primordial vraiment qu'on retrouve partout sur la planète. Voilà, donc on va dire que les grands thèmes du taureau, il y a un rapport à la fécondité, hein, c'est un rapport à la vie, hein, directement le taureau. C'est l'émergence de la vie, c'est la stabilité, c'est une construction de la vie, hein, à travers le temps. Rapport à la sensualité également, car domicile de Vénus et de la Lune, donc il y a un rapport, on va dire, féminin. C'est un signe féminin, hein, le taureau, en astrologie. Et il y a quelque chose de très sensuel, car il y a un rapport aux cinq sens également. On parlera de ça aussi. Bien sûr, le taureau est en rapport à la stabilité, hein, une stabilité qu'on peut perdre dans le scorpion, qui est inévitable d'ailleurs dans le scorpion. Hein. Il y a une instabilité qui nous permet de nous transformer. Dans le taureau, c'est une stabilité qui va permettre une construction, donc à long terme. Voilà. Hein, on est dans la possession des choses, dans la dépossession avec le scorpion. Donc voilà, c'est le comment on va envisager en fait cet archétype, cette forme primordiale, c'est pas juste on va dire un principe qui est psychologique, hein, le taureau ici, mais vraiment une modalité d'être au monde, un rapport vraiment sacré, hein, un symbole sacré. Donc voilà le sommaire, hein, tout simplement, on parlera du taureau du Dharma qu'on va retrouver en Inde, la vache primordiale qu'on va retrouver dans la mythologie scandinave, simplement pour comparer, faire correspondre certains symboles comme ça. On parlera un petit peu des rites de fertilité, hein, de la maison 2, bien sûr, rattachée au signe du taureau, le taureau dans le thème natal et les enseignements spirituels du taureau. Voilà, dans cette petite lecture. Donc déjà, simplement un rappel par rapport à la place du taureau dans la nature. C'est un signe de terre fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que au printemps, zéro bélier, notamment, hein, c'est l'équinoxe de printemps, on a l'énergie, on a cette impulsion cosmique qui vient revitaliser toute la nature après l'hiver, évidemment, c'est ce feu qui vient vitaliser la nature, il vient redonner vie à la nature, puis l'énergie va se fixer ensuite dans la nature à travers le taureau. Le taureau, la terre fixe du taureau, c'est une énergie qui sert à fixer l'énergie dans la nature, hein, restaurer l'énergie, voilà, restaurer cette énergie et quelque part promettre, hein, une construction à travers le temps. Si l'énergie était tout le temps impulsive, il n'y aurait aucune construction qui est possible. Voilà, l'élan est trop impulsif. Ici, l'énergie du taureau vient apaiser les choses et ensuite, eh bien, il y aura un mouvement qui va s'opérer de cette fixité, donc du taureau aux gémeaux. Les gémeaux vont représenter donc le mouvement et bien sûr quelque chose d'adaptable et de changeant aussi. Donc le taureau représente ce milieu de saison, la terre fixe du taureau. Et bien sûr, c'est un élément à travers lequel on va pouvoir travailler. On peut travailler avec cet élément de terre fixe. Voilà, ensuite, un symbole très intéressant qu'on va retrouver partout dans le monde, mais notamment en Inde, c'est le symbole, donc, premièrement, de la vache sacrée, qui est un symbole nourricier, hein. La vache va permettre de nourrir, va représenter la fécondité, va représenter l'abondance, hein, et souvent liée à Krishna, qui est un dieu pasteur, mais aussi le taureau du Dharma, hein, ce taureau ici, qui va représenter, comme vous le voyez, une stabilité. Hein, il est bien stable sur le sol. Et le Dharma, finalement, qu'est-ce que ça représente? Ce taureau, finalement, c'est le représentant, c'est le pilier du monde, hein, c'est le représentant de l'équilibre cosmique, hein, tout simplement. Donc ça, c'est bien sûr le taureau, peu importe où on retrouve cet animal mythique, on retrouve cet élément de stabilité à l'intérieur du taureau. Dans l'astrologie, c'est la même chose, hein, ça représente une stabilité aussi, la terre fixe du taureau. Hein. Une structure qui permet quelque chose à travers le temps. Hein. Il maintient quelque chose, le maintien de l'ordre du monde ici. Donc c'est très fort dans cette tradition. Donc dans le taureau du Dharma, précisément ici, eh bien, chacune des pattes de ce taureau céleste représente une vertu, représente une qualité cosmique qui est présente à l'intérieur des civilisations. Donc par exemple, la vérité, la discipline, la pureté et la compassion. Ce sont les quatre vertus qui permettent la structure et le maintien de l'ordre de l'univers dans cette tradition. Voilà. Donc le taureau ici céleste, c'est lui le garant de cet équilibre. Il maintient cet équilibre en place. Et donc à travers les cycles, vous savez que l'humanité, on va dire, chute à travers des cycles dans cette tradition hindouiste. Donc du Satya Yuga qui représente l'âge d'or, la vérité, jusqu'au Kali Yuga qui représente notre époque actuelle et qui représente la dégénérescence la plus totale, on va dire, des valeurs. Et donc l'humanité, à travers sa chute, si on peut dire, eh bien, va perdre petit à petit certaines valeurs. Le taureau céleste va perdre ses pattes, hein, tout simplement. Il va perdre, voilà, certaines valeurs rattachées à tout ça, qui donc qui représentent le déséquilibre total donc de l'ordre cosmique. Et notre époque représente ça également. Voilà. Ensuite, par rapport à ce que ça peut représenter symboliquement en nous, ce taureau du Dharma, bien sûr, c'est tout simplement la restauration de l'équilibre. Le Kali Yuga, hein, notre époque actuelle, qui est un âge sombre, hein, Kali, noir, l'âge sombre. Donc l'absence de lumière, c'est aussi une opportunité d'aller chercher cette lumière, justement de restaurer ces éléments et de restaurer la vertu à l'intérieur de nous, hein, quelque part. Donc on peut restaurer, par exemple, la discipline, hein. La discipline, c'est quelque chose de très terre, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans le taureau. Il y a une stabilité, ça apporte une stabilité, et c'est une force intérieure, la discipline, hein. Tenir dans le temps, résister aux forces extérieures, hein. C'est une ascèse qui nous permet d'être finalement toucher l'intemporel, hein, on pourrait dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Discipline, stabilité. La restauration de l'équilibre en nous-mêmes, ça peut concerner aussi la lucidité, la clarté. Hein, de voir clair les choses, voir les choses pour ce qu'elles sont, sans distorsion, sans pollution mentale ou émotionnelle. Voilà. Une vision presque stoïque, on pourrait dire, du monde. Donc restaurer la lucidité, comment on fait? On restaure la lumière, évidemment. Hein, sans lumière, on ne voit rien, on ne peut plus observer les choses avec un rapport clair. Ensuite, bien sûr, la compassion, eh bien, ça renseigne à évidemment, la compréhension de l'autre, hein, directement, éviter le conflit quand ce n'est pas nécessaire, évidemment, et voilà, avec le monde et en soi-même. Et bien sûr, la vérité, rapport direct avec le réel, une cohérence entre les pensées et les mots, ne pas se mentir à soi-même. Donc ça, cette cohérence à l'intérieur de nous, c'est très important. Et parfois, le thème natal nous montre parfois qu'il peut y avoir une incohérence, mais qu'on peut quand même toujours travailler à On peut toujours travailler à restaurer quelque chose en nous-mêmes, ça c'est sûr, peu importe le thème natal. Le thème natal nous montre, c'est vrai, un potentiel, un diagnostic, mais c'est à nous de restaurer certaines choses. Donc voilà pour le taureau du Dharma, qui est le représentant donc de l'équilibre cosmique. J'ai trouvé que c'était un symbole intéressant à étudier, à comprendre, et qu'il représente aussi l'équilibre à l'intérieur de nous, évidemment, ce taureau du Dharma. Ensuite, on va trouver cette fois une vache, Auttumbla, qui s'appelle Auttumbla dans la mythologie scandinave. C'est une vache cosmique. Et dans ce récit créationnel, en fait, cette vache apparaît du vide. Hein, il y a un vide primordial dans la mythologie, dans le récit de la création scandinave. Un vide primordial qui vient séparer le monde du feu et le monde de la glace, hein, que vous voyez ici. Ici, on a le monde du feu et de la glace. On a ce vide primordial, et la rencontre du feu et de la glace va libérer l'eau de la glace et va permettre donc à la création, notamment des dieux. Et donc cette vache, ce symbole, apparaît du vide, et son rôle est de nourrir le géant primordial Ymir avec son lait, donc un symbole nourricier, encore une fois, et elle-même se nourrit en léchant la glace salée, ce qui fera apparaître avec le temps le premier être divin dans cette mythologie. Voilà. Donc en même temps, elle a cette fonction de nourricière, on va dire, voilà, elle nourrit le géant Ymir, et en même temps, elle lèche la glace, qui est vraiment un symbole de finalement de temps aussi, hein, et de révélation des choses à travers le temps. Il y a un grand symbolisme à l'intérieur de ça. Autumbla, la vache sacrée. Voilà, et on retrouve, hein, c'est vrai, ces éléments dans le signe du taureau aussi, hein, qui est quand même le domicile de Vénus, qui est une planète extrêmement fertile, et de la Lune aussi. Il y a quelque chose de très nourricier à l'intérieur de la Lune également, et bien sûr cette histoire de temps dans la Terre fixe, hein, que les choses vont prendre du temps à l'intérieur de la Terre, et il y a une vraie construction à faire à travers le temps. Voilà, on va lécher, on va dire, la surface, hein, du destin comme ça, et on va faire apparaître notre propre construction à travers le temps. Donc c'est vraiment un très très beau symbole aussi dans cette mythologie scandinave. Alors ensuite, par rapport au rite de fertilité. Ça, c'est intéressant aussi, les rites de fertilité. Bien sûr, la terre fertile, hein, le symbole de la fertilité, c'est la terre, mais c'est le taureau aussi, hein, qui incarne la terre, qui incarne la nature entière, le taureau. Hein. La maison 2, c'est ça, c'est vos ressources, hein, c'est votre terre entière. C'est votre capacité à générer des ressources, hein, aussi. Il y a beaucoup plus de choses rattachées à la maison 2 aussi, mais en gros, c'est ça. Donc les rites de fertilité, d'une manière générale, sont parmi les formes religieuses les plus anciennes et les plus universelles qui expriment la tentative humaine de participer au renouvellement du vivant. On vient, par ces rites, ces rituels, on vient participer à ce renouvellement de la vie, hein, finalement, hein, où le ciel va venir fertiliser la terre. Ce mariage symboliquement entre le ciel et la terre, où le ciel, c'est un espace divin de lumière, masculin d'ailleurs, qui vient fertiliser du coup la terre, notamment par la pluie. La pluie, c'est aussi un symbole de fertilité, hein, où le ciel vient fertiliser la terre, féconder la terre. Donc dans les sociétés traditionnelles, les rites de fertilité permettaient, par exemple, d'assurer la croissance des récoltes. Voilà, de garantir la production humaine et animale, maintenir les cycles cosmiques de la vie. Et finalement, les rites de fertilité, ils reposent sur une idée qui est centrale, c'est de réactiver la nature rituellement. Voilà, très important, réactiver cette nature. La nature doit être réactivée rituellement à travers les rites de fertilité. La divinité de la pluie, donc, dans les cultes cananéens Cananéen, pardon, et phénicien, Baal, la divinité Baal, est une divinité de l'orage, de la pluie et de la fertilité, représentée par un taureau notamment. Donc, on a une association moderne aujourd'hui entre Baal et Moloch, d'accord? On a une correspondance comme ça entre Baal et Moloch, où Moloch est un dieu réellement maléfique, sacrifice d'enfants, etc., associé aux élites du coup de notre monde de matière. On a toute cette, on va dire, ce discours qui est actuel, d'accord? Mais Baal, à la base, d'ailleurs, les historiens ne sont pas trop d'accord avec ça. Baal, à la base, c'est une divinité de la pluie, de la fertilité, d'accord? C'est une divinité de la fertilité, représentée, encore une fois, par un taureau, voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, des images modernes de Baal, un peu dieu Moloch, sacrifice d'enfants et tout ça, c'est quand même moderne, d'accord? Il n'y a pas vraiment de rapport sérieux, on va dire, avec historiquement, en tout cas, avec ça. Voilà. Par contre, il y a réellement des sacrifices, hein. Il y a des sacrifices de taureaux, notamment. Donc, on sacrifie un taureau pour le dieu qui est représenté par un taureau, hein. C'est tout à fait normal, hein, ce genre de sacrifice. Et finalement, le sacrifice, c'est vraiment offrir la puissance vitale maximale. Ça sert à ça, les sacrifices. Ça sert à restaurer un équilibre dans l'univers et donc faire plaisir aux dieux pour qu'ils puissent restaurer l'équilibre dans l'univers et offrir la puissance vitale maximale, car le taureau représente cette puissance vitale, réellement. Le taureau, les taureaux, de manière générale, en astrologie, représentent la puissance vitale. Ce sont des signes qui vivent d'ailleurs extrêmement longtemps. Les taureaux, extrêmement. Il y a une vitalité qui persévère comme ça à travers le temps, et du coup, ils vivent également extrêmement longtemps. Donc, dans ces traditions, le sacrifice et l'offrande ne sont pas juste un don de quelque chose, hein, simplement, mais une restitution du pouvoir de fertilité. Voilà, donc extrêmement puissant. Le sacrifice a été pratiqué depuis toujours. Et donc, moi, je suis de l'avis qu'il est toujours pratiqué aujourd'hui. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais voilà, sous des manières détournées, évidemment, aujourd'hui, hélas, et sous des façons absolument qui ne sont pas sacrées, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, pour la divinité de la pluie et les rites de fertilité. J'ai trouvé sympa de faire correspondre donc avec le symbolisme du taureau. Donc, bien sûr, la maison 2 maintenant. On ne peut pas parler du taureau sans parler de la maison 2. Donc la maison 2 en astrologie sera toujours reliée au taureau. Même si vous avez une maison 2 qui est ailleurs, le taureau pardon, qui est ailleurs, la maison 2 aura toujours une analogie avec le taureau. Donc la maison 2 va renseigner sur les ressources matérielles, votre capacité à générer des choses, hein, les biens matériels, la sécurité d'une manière générale. Une maison 2 qui est comment dire, difficile, hein, on peut dire, avec des planètes un peu difficiles, tout ça, le sentiment de sécurité est pas terrible, d'accord? Donc il faut travailler là-dessus, hein, tout simplement, c'est important. Donc la valeur personnelle, l'estime de soi, c'est évidemment rattaché à ces éléments, rapport direct à la matière et à la nourriture. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport à la nourriture. Les troubles du comportement alimentaire, hein, par exemple, sont associés à la maison 2 en astrologie, notre rapport à la matière, à la nourriture. De quelle façon finalement, quel rapport on a avec la nourriture directement. Donc beaucoup de troubles de la nourriture sont associés à ça. On peut le voir notamment dans le thème natal. Donc il y a une vraie relation entre vous voyez, hein, entre la sécurité intérieure, la sécurité, la peur de manquer, et la relation, bien sûr, à la nourriture. Il y a une relation entre tout ça, et l'astrologie, hein, l'explique clairement, finalement. Voilà. Et quand on essaie, donc, du coup, de travailler avec sa maison 2, on peut résoudre beaucoup de choses indirectement. Hein, c'est-à-dire que on comprend notre maison 2. Déjà, il faut voir le problème pour ce qu'il est. Si on a des problèmes par rapport à ça, d'estime de soi, de niveau alimentaire, souvent, ça se manifeste très clairement dans la vie. Il faut voir le problème pour ce qu'il est, et ensuite on peut résoudre des choses, voilà, de manière astrologique. On peut travailler sur chacune des maisons comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, bien sûr, le taureau dans votre thème, finalement, peu importe où vous avez le taureau dans votre thème, il va toujours renseigner sur une sécurité et sur une construction également. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez le taureau dans la maison 7, peut-être que vous trouvez une sécurité émotionnelle ou matérielle à travers le partenaire. Hein, c'est le cas très souvent, je veux dire. Si vous avez le taureau en maison 6, peut-être que vous trouvez une sécurité à travers votre travail, à travers le travail quotidien, hein, tout simplement. Si c'est en maison 9, peut-être que c'est à l'étranger que vous trouvez une sécurité. Peut-être que c'est à travers votre voie spirituelle, votre idéal spirituel que vous trouvez une sécurité aussi. Avec la maison 9 en taureau. Voilà. Vous voyez qu'il y a toujours une relation avec le taureau, comprendre dans quelle maison il est dans votre thème, évidemment, et la maison 2, qui est vraiment la maison, voilà, la maison de vos ressources réellement. Hein. Et encore une fois, on peut travailler avec cette maison. Il faut comprendre son thème natal. Il faut comprendre certains problèmes. Que tout n'est pas beau, que tout n'est pas facile, évidemment, dans le thème natal. La vie n'est pas facile en elle-même. Et qu'on peut, comme ça, commencer à résoudre des choses, voir les choses positivement, pour ce qu'elles sont et travailler à une restauration. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, hein, tout simplement. Voilà, le taureau dans le thème natal. Qui renseigne sur ce qui se construit donc à travers le temps. Et Vénus en taureau va permettre, je dis ça simplement comme ça, un amour fidèle très fréquemment, car le taureau, c'est un signe de terre fixe. Généralement, les taureaux sont fidèles, à part s'il y a vraiment une configuration terrible dans le thème natal, mais généralement, les taureaux sont fidèles, et c'est vrai que Vénus en taureau, c'est un amour qui est très stable, hein, qui est fidèle ici. Hein. Voilà. Un très beau placement aussi. Donc, par rapport aux enseignements spirituels du taureau, en tant que symbole sacré, bien sûr, hein, ça dépasse même le cadre astrologique, évidemment, hein, on a vu avec les rites de fertilité et tout ça, il y a un rapport au temps avec le taureau qui est excellent. Hein, c'est que comprendre que les plus belles choses, les plus belles réalisations dans la vie prennent du temps. Ça, on l'a avec tous les signes de terre. On l'a avec le Capricorne, qui renseigne plus sur une élévation, et avec la Vierge également. Que toutes les belles choses, toutes les belles réalisations vont prendre du temps. Ça, c'est l'enseignement du taureau. Maîtriser sa force vitale et ses désirs face à la gratification immédiate. Le taureau, c'est un signe de patience, c'est un signe de temps, mais c'est aussi un signe domicile de Vénus, où on va peut-être abuser de certains plaisirs, il y a des choses en excès, et donc ça demande tout simplement une maîtrise, ça demande un équilibre, hein, tout simplement. Voilà. Que le taureau, c'est un signe qui est sensuel, c'est un signe qui est sexuel. Il y a un très beau rapport, c'est vrai, au corps, à la matière, aux cinq sens et tout ça. Mais on peut avoir une maîtrise de la force vitale également. Voilà. Le rapport à la force vitale est très intéressant dans ce signe. Développer la patience, développer l'endurance, la persévérance, la stabilité intérieure. Voilà, donc on a tous finalement le taureau quelque part dans notre thème natal. Où il est placé dans le thème natal, c'est très intéressant. C'est peut-être un endroit où on peut développer plus facilement ce genre de choses. Mais d'une manière générale, ce sont des qualités voilà, qui sont vraiment excellentes pour tout ce qui est d'un travail, d'une construction, on va dire, dans le temps. Si on est dans le surface, dans le travail de surface ou dans l'éphémère, eh bien, le taureau nous rappelle à une stabilité, nous rappelle à la matière et à la persévérance et tout ça. Donc voilà tout simplement le rapport sacré à la matière. Le taureau permet ça aussi. Hein. C'est un signe aussi du quotidien, hein, le taureau, c'est vrai, c'est un signe de confort, de quotidien, de toutes ces choses-là. Important de ritualiser le quotidien, le corps en tant qu'espace sacré, en tant que temple sacré, utiliser des parfums sacrés, par exemple, les huiles aphrodisiaques, les encens. Donc, les parfums sacrés, tout ça, c'est en relation à tout ce qui est sensoriel. Hein, le taureau, c'est tout ce qui est sensoriel, tout ça fait partie du taureau. Les huiles aphrodisiaques, ça vient d'Aphrodite, hein, on parle de Vénus ici, hein, on parle d'Aphrodite, d'accord? Donc il n'y a pas un caractère forcément sexuel avec aphrodisiaque, il y a un caractère déjà sacré avec ça. Hein, donc ça peut être tout ce qui est du corps sacré, du rapport au corps sacré. Voilà. Le taureau, en tant que symbole sacré, c'est la porte des cinq sens. Hein, encore une fois, c'est le lieu d'exaltation de la Lune en astrologie. Et ça, c'est la planète aussi des sens, des cinq sens. Le taureau, c'est la porte sur les cinq sens. Très sensible, le taureau, au toucher. Le contact avec ce qui est réel, avec la réalité, le réalisme, hein, la matière. L'odorat, bien sûr, qui est en rapport à la mémoire, système limbique. Le goût, hein, en rapport aussi au plaisir. Il y a un effet de récompense dans le goût. Hein. Il y a une gratitude face à la vie. Le son. Qui permet une stabilité intérieure et une continuité. Hein, le sens, finalement, se propage à l'intérieur du temps. Hein, ça renseigne sur une continuité, hein, comme ça. Donc tout ça, ce sont des choses à explorer, hein, tout simplement. Et la vision intérieure, cette capacité à produire des images mentales, Ça peut être aussi voilà, un des cinq sens hein, qui permet de développer la compréhension des symboles. Donc tout simplement, le taureau, c'est aussi une porte sur ces cinq sens et vraiment de travailler de manière rituelle dans le quotidien avec tout ça, hein, avec le toucher, l'odorat, le goût, le son et la vision intérieure de certains symboles pour pouvoir comprendre le symbolisme un petit peu mieux. Ensuite, on a bien sûr la méditation directement sur l'élémentaire. Hein. Vous savez qu'on peut méditer sur chaque élément. Ça permet d'intégrer cette qualité à l'intérieur de nous. On peut intégrer des qualités comme ça à l'intérieur de nous, hein, par un travail conscient du coup. Ça, on en reparlera aussi. On essaiera de travailler là-dessus si ça vous dit. Donc, l'élémentaire, c'est un effet de pesanteur à l'intérieur de soi. C'est un effet de stabilité, donc très bon quand on est dans des périodes de doute, des périodes d'instabilité émotionnelle, par exemple. Eh bien, c'est très important de méditer là-dessus et de trouver cette stabilité émotionnelle, même dans des périodes où tout est changeant. Hein, on est dans une période de changement, de transformation, mais on est quand même stable et ancré à l'intérieur de soi. Et donc, par exemple, on peut méditer directement sur cet élément, on peut s'aider de parfums sacrés, d'huiles qui sont en relation à la terre, à l'élémentaire, avec des correspondances, qui sont en relation au taureau aussi. Hein. Et donc ça aide énormément à restaurer finalement un équilibre donc à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est vraiment, comment dire, c'est un travail opératoire, on va dire, qui marche absolument et qui permet donc de restaurer toutes ces belles qualités finalement en nous, si besoin. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce symbole sacré du taureau que je voulais vous partager. Je vous remercie pour votre écoute infiniment et je vous dis à très bientôt.